Et bonjour à tous, bonsoir à tous. On s'y trompe avec ces changements de température et surtout les journées qui durent plus longtemps. Nous en parlions hors antenne avec vous, Alexandre Degalzin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
La météo vous rend-elle heureuse?
Bah écoutez, elle s'y est parfaitement à mon temps.
Même si un peu de bronzage ne vous ferait pas de mal, n'hésitez pas à prendre quelques jours dans le sud. Je vous conseille d'aller du côté de la Provence.
Bah écoutez, je demanderai ça à mon patron de m'accorder effectivement quelques jours de congé. Mais mon patron n'est autre que Pierre-Alexandre Bouclet, donc si jamais vous m'écoutez, n'hésitez pas.
On imagine que Pierre-Alexandre Bouclet nous écoute ce soir. Pierre Galland, bonsoir. Est-ce que la température, la météo, les journées qui rallongent vous rendent heureux?
Mais écoutez, ça me rend très heureux de pouvoir profiter des soirées en terrasse avec des amis.
Comme ce soir d'ailleurs.
Pas en terrasse.
Pas en terrasse, mais avec des amis. Mais entre amis et pour des discussions qui seront, j'imagine, du même niveau que lors de nos verres ou moments de ripaillerie gauloise et patriote sincère en terrasse. Alors, chers amis, vous êtes en train d'écouter Prolongation, l'émission que vous pouvez retrouver toutes les deux semaines, sauf que nous ne pouvons malheureusement pas la faire et nous excusons évidemment de ces aléas et auprès des équipes de Radio Courtoisie, mais aussi auprès de vous. Et je vous rappelle que vous écoutez donc Radio Courtoisie, radio indépendante et libre, qui donne la parole à toutes les droites, à tous les talents, et qui est financée grâce à vos soins, grâce à votre gentillesse. Et quand la gauche tente de vous attaquer, notamment vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, en voulant remettre en cause la défiscalisation, c'est bien la preuve que ça dérange et que les médias de gauche, comme nos adversaires politiques, préfèrent se financer à coup de larges subventions plutôt que de voir des Français choisir là où leur argent va, à savoir pas dans des associations pro-migrants, mais pour des belles radios et des beaux projets. Cher Alexandre Degalzin, comment allez-vous?
Eh bien écoutez, pas trop mal, effectivement. Il faut dire que les jours qui se rallongent me permettent chaque matin, sur ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, eh bien, d'arriver avec le soleil levant, ce qui n'est pas désagréable, pour tout vous dire, sur le pont du Garigliano, où eh bien, j'ai la joie de pouvoir observer la tour Eiffel sur ce soleil levant. C'est tout à fait agréable.
C'est ce que j'ai vu sur vos réseaux sociaux, cher Alexandre.
N'est-ce pas?
Eh bien justement, en parlant de météo, on va vous la donner un petit peu pour la semaine à venir, alors notamment à La Roche-sur-Yon. Alors La Roche-sur-Yon, terme
au hasard.
Au hasard. Alors La Roche-sur-Yon, les températures seront assez élevées ce week-end, puisque au speed de la journée, nous atteindrons 23 et 24 degrés.
Au speed de la journée, Stanislas, vous êtes sur ce Radio Courtoisie, je vous rappelle.
J'ai dit au pic, cher Alexandre. Et mardi et mercredi seront des journées particulièrement ensoleillées. Pour nos auditeurs parisiens, un week-end prometteur, visiblement, puisqu'ils annoncent un grand soleil et une température avoisinant les 15 à 20 degrés, ce qui nous permettra de profiter de ce week-end à Paris et de profiter de tout ça pour visiter cette belle ville qui est notre capitale. Pierre, comment allez-vous?
Bah écoutez, Stanislas, ça va très bien également.
Et bah écoutez, merci à tous, chers amis d'avoir écouté.
Et vous?
Bah écoutez, je vais très bien. Mon ami Alexandre m'a donné une excellente idée pour cette émission, c'est que nous allons faire une spéciale post-présidentielle, parce que la présidentielle...
Pré-présidentielle.
Oui, pardon, j'ai dit post, mais pré-présidentielle. Mais ça sonne moins bien. Et post-municipal, tout à fait. Parce qu'en réalité, nous sommes à un an du premier tour de l'élection présidentielle. Et comme vous me le rappeliez hors antenne, Alexandre, la liste des candidats, ou des pré-candidats, je ne sais pas comment on appelle cela, pour la présidentielle est assez conséquente, puisque nous pouvons voir que de Michel-Édouard Leclerc en passant par Gabriel Attal, nous avons... c'est la pire imitation de Gabriel Attal.
J'ai jamais entendu une si belle imitation de Gabriel Attal, justement.
C'est terrifiant.
Je l'ai tenu un petit peu pendant un temps. En fait, ce qu'il faut, c'est tout rajouter. Enfin, tout accentuer sur les mots.
Oui.
Genre, le temps sera venu, en fait, de parler d'autre chose.
Oui, c'est mieux là, comme ça, effectivement.
Ouais, il faut un peu s'agir de D.
Oui.
C'est mi-teubé, mi... Mais bon, c'est sûrement un excellent candidat. Hein. Enfin, on verra. Donc, il se trouve qu'il y en a beaucoup. Alors, je ne pourrais pas les compter parce que je suis très mauvais en mathématiques, mais je pourrais essayer de le faire. 1, 2, 3, 4, fois, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois
36.
4. 9 fois 4.
Quelle rapidité.
Bah, 36, oui,
quelle vitesse, c'est impressionnant.
On n'est pas seulement des littéraires à Radio Courtoisie, on est aussi des matheux.
Et oui, et parce que vous avez d'ailleurs fait une première S.
Pas du tout, ES.
Aïe, aïe, aïe. Le ES, c'est les gens qui n'arrivent pas à se déterminer à se choisir.
Mais écoutez, pour tout vous dire, cher Stanislas, mon père insistait particulièrement pour que je fasse S. Effectivement, ce n'était absolument pas concevable de mon côté. Et je voulais faire L. Simplement, nous avons dû trouver un compromis. Et donc, ce fut ES.
C'est exactement ce
qui confirme la théorie.
C'est un homme de compromis, Alexandre. Oui, oui. Derrière votre radicalité apparente et vos prises de position quelque peu sulfureuses.
Non, dites pas ça, Stanislas. Pas autant que les vôtres, pas autant que les vôtres.
Moi, je me considère plutôt comme quelqu'un de modéré.
Ah oui?
Oui, plutôt.
Comme Dominique de Villepin, avec qui nous allons commencer cette émission.
Oh là, mais attendez, c'est par Villepin qu'on commence? J'ai pas le conducteur sous les yeux, je suis désolé. Bah, ça dépend, il y a deux écoles. Soit on commence par
l'ordre. Non, mais on peut faire de gauche à droite, par exemple.
Mais alors, il se trouve, il faut citer ses maîtres. Alors, en l'occurrence, il se trouve, c'est Clément Matchy, qui est un fin analyste des sondages sur Twitter, et qui a fait cette liste. Mais le classement, c'est vrai, il est un peu spécial, parce qu'il est... Il n'est visiblement pas dans l'ordre alphabétique.
Non, non, c'est vraiment de gauche à droite. C'est pas si compliqué que ça, en fait.
Bah non, pas du tout.
Faut apprendre à lire, en fait.
C'est tout à droite.
Oui, mais c'est parce qu'il y a quelques candidats qui sont hors catégorie. Mais ne vous en faites pas, Stanislas, on va vous aider.
Asselineau,
on va vous aider.
Baroin, vous le mettez tout à droite. Olivier Faure, il est là.
Non, mais attendez, Stanislas, vous n'allez pas vous attacher à la liste précise que vous avez sous les yeux avec le auditeur.
Asselineau, vous mettez plus à droite que Thierry Zemmour.
Mais Stanislas Rigaud, vous remarquerez sans peine, j'en en doute pas, que certains candidats sont en blanc dans votre liste et donc sont considérés comme étant hors catégorie.
Et les amis, tout
et donc,
à la fin, on
est absolument. D'extrême gauche, Mathieu Pigas.
Bon, Stanislas, vous jouez avec les mots.
Et ben, je vais commencer par un autre jeu, parce que vous voulez. Mais enfin, tu vois, c'est bizarre, mettre Pigas à tout à droite et Leclerc aussi. Si je vous dis bateau.
Delphine.
Oh, bah, vous avez le classement sous les yeux. Je ne savais pas que c'était.
Oui, mais j'avais.
Qui est-elle?
C'est une écologiste, il me semble qu'elle a été candidate déjà en 2020. Non, c'était Yann.
Oui, mais elle a déjà été candidate à une grosse élection. Je crois que c'était en 2022, elle a déjà été candidate à la primaire des écologistes, effectivement. Et à côté de ça, il faut rappeler que je crois que Delphine Bateau est ancienne de Greenpeace ou d'Oxfam. Oui. D'Oxfam, il me semble.
Oxfam, je crois.
Oui, Oxfam, tout à fait. Et donc,
elle n'a pas fait Oxford, mais Oxfam.
Non, mais voilà. Mais vous ne voulez pas faire ça dans l'ordre, parce que sinon, on va très rapidement se perdre.
Mais Bateau, je ne savais pas qui c'était. Je vous demande juste.
Ah oui, d'accord. Donc vraiment, votre connaissance de la politique est particulièrement...
Des mauvais candidats et assez mauvaises, en effet.
Oui, effectivement.
Bon, commençons par Artaud alors.
Oui, Nathalie Artaud. Bon. Donc, finalement, rappelons que nous faisons la liste donc, de l'intégralité des candidats qui sont potentiellement. Soit candidats déclarés, soit potentiels candidats à l'élection présidentielle.
Et que si vous voulez accélérer les règles de l'émission, Alexandre.
C'est ça, je trouve que vous êtes un terrible animateur, raison pour laquelle je sens que je dois absolument vous supplanter.
Rappelons que vous n'êtes que joker ici pour présenter la matinale, sinon vous êtes.
Non, je suis titulaire trois fois par semaine.
Désormais. Ah bon, vous êtes titulaire, hein?
Eh bien, vous devriez suivre mes propres actualités, c'est ça.
Je vais vérifier, Delphine Bateau est actuellement députée, pardon.
Ah ouh, voilà,
député, mais qui l'eût cru?
C'est en fonction depuis 2013.
Eh bien, décidément, ça ne voilà, se voit pas.
Je pense que... comme quoi, on se trouve vraiment bête.
La correction valait l'interruption.
Comment voulez-vous procéder?
Faisons de gauche à droite, ce sera plus simple.
Ça, très bien, mais alors qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse? Leur chance de victoire, leur talent, ce qui vous inspire?
Non mais déjà, un commentaire sur chaque personne à tout le moins. Enfin voilà, c'est...
Nathalie Artaud.
Non mais Nathalie Artaud, déjà, je trouve fascinant que son parti parvienne toujours à réunir les 500 signatures et à exister au fil des années. Je crois que ça fait...
Là où quelqu'un comme Marine Le Pen, les dernières années, a eu énormément de mal, oui. Alors que son poids est autrement plus important.
On a dit qu'on ne va pas être physique, mais...
son poids électoral, par Stanislas.
Stanislas, on sent que vous êtes d'humeur taquine ce soir. Mais non, mais sérieusement, je ne sais pas Nathalie Artaud fait pour réunir 500 signatures tous les 5 ans depuis 2017, il me semble.
Mais je pense que justement, c'est comme tout le monde sait très bien...
Et même financer sa campagne.
Alors, campagne, on la voit pas beaucoup objectivement, parce que justement, c'est des candidats qui savent qui feront des scores dérisoires et qui donc n'investissent.
Minable, on peut le dire.
Dérisoires. Et qui donc forcément derrière n'investissent très peu. Et c'est un peu à la fois le vote, mais aussi le parrainage, sans trop de risques. parce que voilà, c'est dans tous les cas, personne n'en voudra à qui que ce soit d'avoir parrainé ou voté pour Nathalie Arthaud, tellement justement c'est un vote dérisoire.
Mais savez-vous que Nathalie Arthaud, si je me souviens bien, est la candidate qui proportionnellement a le plus de votes de lesbiennes dans son électorat?
Ah, c'est vrai. Et ça, oui. C'est un chiffre sans doute, pardon.
Écoutez, il y a eu des statistiques, effectivement, selon l'orientation sexuelle, et je crois que Nathalie Arthaud est celle qui a le plus de lesbiennes avec elle. Peut-être est-ce une indication pour les aider à venir dans un monde woke islamique particulièrement développé.
Même si c'est pas forcément la plus...
Mais elle est courageuse, Arthaud, non ?
Oui, non, mais elle a un côté où, par exemple, vous regardez ses positions sur le voile, elle a fait pas mal de polémiques il y a quelques... Bah oui, assez, parce que c'est un petit peu l'ancienne gauche, justement.
Laïcard,
Oui, qui garde un côté laïcard, et effectivement...
Trotskiste.
Oui, mais trotskiste, mais sans être tout à fait progressiste, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est la radicalité en permanence sur tout, et qui... finalement, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est quelque part, elle fait pas tellement de concessions à un électorat qu'elle n'a pas vraiment de toute façon. Sûr. Mais elle réunit quand même. Je sais pas combien de voix ça fait exactement. Sans doute Pierre Galland pourra-t-il nous renseigner là-dessus pour 2022.
Fact-checker.
Oui.
Notre comment il s'appelle Clément Viktorovitch à nous.
Oui, exactement. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Non, mais effectivement, je ne sais pas combien de voix elle réunit.
5%.
Oui, 5%. Et combien de voix exactement, si jamais vous trouvez la statistique.
Je vais vous trouver le chiffre.
Mais effectivement, le fait qu'elle arrive à se présenter à chaque fois est tout de même assez impressionnant. Oui, tout à fait.
Pierre peut-être...
Pardon, rien à voir. 0,56% des voix exprimées, pardon.
Oui.
Mais je n'ai pas le... Je corrige ma donnée. N'ai pas les... Ah si, j'ai les voix, voilà. Ici, 2022, 197 000 voix.
Près de 200 000 personnes qui votent Nathalie Arthaud à chaque...
Est-ce que vous en connaissez? Ça, c'est une vraie question que je vous pose à chaque fois.
Non.
Et écoutez, personnellement, j'en connais un.
Ah oui.
C'est vrai?
Mais vraiment. Le profil, ça m'intéresse.
Oui, mais c'est vrai.
Un jeune?
Non. Il a une 70 ans de mémoire. Mais c'est de...
Quel profil un petit peu...
C'est vraiment le profil de justement ce vote. Pas contestataire, parce qu'on conteste rien du tout quand on fait 0,5%. Le côté un peu fantaisiste de voilà, ce... j'ai personne qui m'intéresse, donc c'est un vote sans trop de risque pour marquer quand même un soutien un peu au monde ouvrier, donc voilà, c'est le
on n'aura jamais autant parlé de Nathalie Arthaud sur cette antenne de Radio Courtoisie. Alors avant de passer à Jean-Luc Mélenchon, qui va nous prendre un peu de temps évidemment, nous avons un auditeur, un fidèle auditeur qui nous envoie ce message: la présidentielle française sera la continuité dans le changement, et celui qui gagnera sera Édouard Philippe Fantomas, grâce à LFI, LR, le PS et les astrologistes. En second, je mettrai l'homme au scooter et sa nana Hollande. Smiley, main, stop, bien courtoisement. Denis, cher Denis, merci de votre courriel. C'est vrai qu'Edouard Philippe, on en parlera tout à l'heure, fait partie des candidats en pole position pour peut-être être le gagnant de cette élection présidentielle. Et je rappelle à tous nos autres auditeurs que nous serions heureux de vous lire à cette adresse, latechnique@rc.fr, latechnique tout attaché @rc.fr. Merci par avance, nous lirons vos courriels avec plaisir. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours le faire.
Et l'homme en scooter, François Hollande, dont vous êtes un grand turiféraire, Stanislas, et dont nous parlerons effectivement en temps voulu aussi.
Et pour ne pas divulguer ma ligne politique sur François Hollande et mes analyses sur la gauche, ils sont très souvent juste.
Brillante.
N'ai-je pas dit depuis maintenant un an et demi que François Hollande sera de retour?
Stanislas, vous l'avez dit. Vous l'avez dit.
Et ça vous embête presque un petit peu que je ne me sois pas tant trompé de ça?
Pas tellement. J'ai pas d'égo là-dessus. Je suis très heureux pour vous.
Bon, là, mais dis donc, mais qu'est-ce qui vous... Je vous trouve très spécial ce soir. Je vous ai presque trouvé sympathique quand vous m'avez dit bonjour. Vous avez pris de mes nouvelles. Là, vous mettez de côté votre ego. Je trouve ça à la fois admirable et à la fois. Mais en même temps, c'est aussi ça, l'Alexandre de Galzin. Savoir se réveiller dans les grands moments.
Écoutez, j'essaie d'être fidèle à ma réputation.
Bah oui, non, là c'est plutôt d'être un immense...
Bon, allez, attends, passons au candidat suivant.
Juste avant, je vais vous poser une question, et ça va nous lancer sur justement Jean-Luc Mélenchon. Selon vous, et ça c'est un peu l'œuf ou la poule, est-ce les grandes époques qui font les grands hommes, ou les grands hommes qui provoquent les grandes époques?
Grande question qui dénote un petit peu d'une d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire que effectivement les grands hommes ont tendance à mettre à pousser une impulsion, à donner une sorte de souffle qui permet effectivement à leur successeur de se reposer dessus. On voit par ailleurs que effectivement certains personnages dans l'histoire justement ont réussi à créer un héritage. L'héritage dure généralement au moins un bon demi-siècle. Ce fut le cas notamment avec notre cher général de Gaulle que vous avez été tant, Stanislas.
Oui, je me considère comme un gaulliste social.
Oui, et républicain.
Et républicain. Et ce qui est marrant, c'est que le gaulliste social, en réalité, c'est plutôt un pléonasme en réalité. Puisque Charles de Gaulle était, il est vrai, un président qui avait une grande logique, un attachement au social important. Je crois que c'est quelque chose qui est plutôt à son crédit, dans un contexte évidemment économique qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, mais qui est plus favorable, avec une natalité vivifiante, et dont nous parlons peut-être à la fin de l'émission si nous avons le temps. Je crois que la natalité est un sujet passionnant et de passionné. Jean-Luc Mélenchon, oui. Donc.
Ah bah alors là, grand sujet.
Mais qui pourrait nous faire l'émission?
Oui, en réalité...
Est-ce le grand patron de la gauche? Est-ce le maître absolu de cette gauche, idéologiquement parlant, en termes de militants, en termes d'organisation, Alexandre?
Ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à catalyser d'une certaine façon tout ce qui relevait de la gauche, de la pensée de gauche, en réalité. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en dehors de Mélenchon, en termes de production idéologique, en termes de production même technique, n'est pas considéré comme étant réellement de gauche. C'est certain que c'est lui qui a la mainmise sur toutes les impulsions d'idées nouvelles qui viennent de ce bord politique. Après, moi, quelque chose qui me perturbe toujours, c'est que c'est de voir son assise absolument impressionnante au sein de ce camp, et en même temps de regarder certains sondages, l'intégralité des sondages même, qui montrent qu'il fait partie des personnalités politiques les plus détestées des Français, avec Emmanuel Macron et Éric Zemmour notamment, qui atteignent à peu près 75% d'opinions défavorables, mais foncièrement défavorables, et qui fait que finalement son potentiel électoral, comme celui d'Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour, sont en réalité assez limités et peine potentiellement à dépasser les 25%. C'est selon les sondages exclusivement, hein. Évidemment, on a le droit de les remettre en question, je le comprends parfaitement.
Pas du tout, ils sont vrais. Ils sont vrais, mais c'est là où il y a une différence. Les Fabien Roussel et François Ruffin sont extrêmement populaires. Là, j'ai vu dans le baromètre des femmes politiques, on avait une nana, c'est très misogyne dit comme ça, mais... Christine Lagarde, elle a 37% d'opinion favorable. J'ai jamais entendu personne me parler de Christine Lagarde dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
après, sont les femmes, c'est...
ce sont des gens populaires, mais la popularité ne fait pas un électorat. Et oui. Je crois à la nuance, et Macron est très impopulaire. Il a été élu 2 fois président de la République.
Et d'un autre côté, justement, sur la question de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est réellement capable de... polariser, ça ne fait aucun doute. En revanche, est-ce qu'il est capable de polariser au point de, dès le premier tour, parvenir à vaincre le nombre hallucinant de candidatures qui se profilent à gauche? Ça, c'est un autre débat quand même.
Oui, mais en 2017 et en 2022, s'il ne va pas au second tour, il est très largement en tête.
Oui, mais la question, c'est évidemment, vous le savez, depuis... 2020, depuis à peu près le mois d'octobre 2023 au hasard, il a, on va dire que sa popularité a
singulièrement...
Le octobre 2023, c'est un mois que je prends comme ça.
Ah oui, non, mais c'est octobre.
Pardon, c'est ça.
Non, j'avais pas saisi, pardon.
Non, mais le 7 octobre, tout à fait, moi-même, cela m'échappait. Mais effectivement, cela étant, il a vraiment ruiné son opinion publique auprès de la majorité, au point que les personnes qui se sentent... d'une certaine façon centriste ou même de centre-gauche, et qui serait plus ou moins dans un logiciel similaire au sien, pourrait le penser comme quelque chose de...
Oui, Alexandre, mais vous oubliez quand même quelque chose d'important dans cette histoire. C'est qu'en 2024, on est déjà après 2023, et que la NUPES arrive première aux élections législatives, et que le patron de cette NUPES, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que, mais si vous vous rappelez bien, Stanislas, vous remarquerez que Jean-Luc Mélenchon
Jean Poussin, mais...
n'est pas présent à toutes les négociations qui ont lieu au sein de la NUPES.
Mais c'est lui qui décide.
Oui, mais d'une certaine façon, c'est sa personne qui dérange. Et or, c'est pas à vous que j'apprendrai que l'élection présidentielle se fait sur une personne. Et d'une certaine façon, justement, j'aurais tendance à penser que sa personnalité en elle-même pourrait être un réel repoussoir, même à certaines personnes.
Eh bien, deuxième exemple, peut-être moins grave, évidemment, que cet hold-up, enfin, bien entendu, moins grave et surtout moins longue sur le temps. Mais Mélenchon, après 2017 et l'élection présidentielle et les législatives, il est l'homme politique quasiment préféré des Français. Il est extrêmement populaire en 2017 après les législatives. Il est sympathique, il a fait une campagne démente, il a écrasé le reste de la gauche, il a son groupe à l'Assemblée, tout se passe bien, ses lieutenants sont gentils, ils font le tour des plateaux, etc., etc., etc. Et là, patatras, vient La République, c'est moi, et là, dégringolade absolue. Il commence la campagne présidentielle en 22, ils font 6 aux européennes de 2019, il commence, il a 8 à la présidentielle de 2022, il a fini à 400 000 voix du second tour. Donc malgré une personne détestable, je crois qu'il a une force de campagne qui est assez impressionnante, il a une énergie.
Et c'est d'ailleurs mais ce qu'on voit sur toute aussi. Leur campagne aussi, où à chaque fois ils partent relativement bas et ils ont une montée en puissance à la fin.
Ils ont gagné des grosses villes, Roubaix-Saint-Denis, c'est quand même pas rien, c'est des signes envoyés. Et puis surtout, moi je vais vous dire, c'est au top pour aller le sujet de la gauche, il est très simple, ça va nous permettre de... Enfin évidemment Pierre, je vais attendre votre avis sur... on a fait deux candidats.
Oui, on est déjà à 20 minutes d'émission.
Après, il y en a des moins intéressants. Mais le dilemme de la gauche est de toute façon extrêmement simple. C'est là où il y a deux matchs qui se jouent. La gauche, le candidat de gauche qui a le plus de chances d'aller au second tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le candidat qui a le plus de chances de perdre au second tour, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon. Donc leur dilemme, il est très simple.
Et vous dites la vérité.
Je pense. Et donc, là où il y a un match dans le match, c'est que Mélenchon, lui... doit réussir à prouver qu'au second tour, il n'est pas nécessairement battu par Jordan Bardella, ou en tout cas, c'est le meilleur adversaire de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, quand, et c'est là où on va commencer à aller doucement vers nos candidats un peu plus undercover, pour prendre une expression de salopard.
Wow, c'est atroce ce que vous expliquez là. Mettez une pièce dans le cochon, c'est ça.
En tout cas, dissimuler, c'est les sociodémocrates. Et le bloc central, en fonction de son candidat, s'il est plutôt tendance gauchiste, ou pas, si c'est François Hollande ou Glucksmann, etc., ça va être très intéressant, parce que François Hollande, oui, aujourd'hui, n'a aucune chance d'aller au second tour, et s'il y est...
Attendons de voir, d'y arriver, Stanislas, si jamais... alors, je reprends un petit peu votre émission en main, parce que visiblement, vous ne la tenez pas très bien. On passe à Fabien Roussel.
Oui, on y vient, mais oui, si vous me laissez deux secondes...
Mais allons-y.
Bah, allons-y, alors Fabien Roussel, Pierre Galland.
Fabien Roussel, bon, c'est le...
Presque c'est le gauchiste préféré de la droite.
Oui, déjà.
Et ça m'énerve.
Et c'est un peu aussi le cocu de la gauche. Enfin, ceci dit, il y en a d'autres OPS qui sont pas mal dans le domaine, mais où on a un peu l'impression que, à la fois, il reste. C'est un peu ce qu'on disait à la limite avec Nathalie Arthaud.
Il est maire, là.
Où il reste.
Le sentiment réseau.
Il reste sur sa ligne et il tombe pas, en effet, dans du clientélisme. Complètement de bas étage, comme peut le faire Jean-Luc Mélenchon. Mais pour autant, on a un peu l'impression que c'est toujours le dindon de la farce et qu'il se retrouve complètement marginalisé de tout, à nuancer cependant que, vu leur poids au présidentiel, ils ont malgré tout un poids législatif.
Oui.
Qui est sénatorial, disproportionné, oui, et sénatorial, oui, qui pardon, est disproportionné. Mais donc voilà, faut. C'est un peu une position ambivalente où à la fois il sait qu'il va faire 1%, 1,5%, 2%. Bon, c'est voilà. Il tient sa ligne pour autant, on peut lui reconnaître ça.
Pour expliquer quand même à nos auditeurs, c'est-à-dire que actuellement il y a lieu, et on va y venir évidemment avec les candidats suivants, une primaire de la gauche. Qui se situe sur le PCF, le groupe après les écologistes et puis l'une partie du Parti Socialiste, cette primaire de la gauche à laquelle Fabien Roussel ne participe pas officiellement pour le moment. Il y a un congrès du PCF qui se déroule en juin ou en juillet pour justement établir la
vous
ligne de conduite. Et peut-être, figurez-vous.
Magnifique.
Mais, n'est-ce pas ?
C'est grotesque, non ? Bah, vous là-bas, mais leur congrès, il, c'est nul.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, pardon, mais précisé aussi.
Excusez-moi, mais c'est celui avec Tondelier, Corbière, Autain,
non,
etc.
Non, là, ce sera un congrès exclusivement du PCF. Ah
non, d'accord, mais la primaire dont on parle.
Ah oui, exactement. Mais justement, oui, venons à tous ces candidats dont vous parlez. Alors, mais question intéressante quand même, parce que effectivement.
Posez-la moi, je vous dirais.
Mais j'allais le faire, figurez-vous. Cette primaire de la gauche, est-ce un moyen justement de trouver une gauche équilibrée entre le mélenchonisme et la social-démocratie glucksmannesque ou hollandesque, ou alors n'est-ce qu'une vaste opération de communication? C'est Sasrigo, vous êtes enrhumé, j'espère que vous allez vous en remettre.
Oula, excusez-moi.
Oui, oui, ça
veuillez m'excuser, cher auditeur. Les changements de température procurent aussi des rhumes et des grippes.
J'espère que vous allez le dire. Restez jusqu'à la fin de l'émission, Stéphane.
Je vais essayer.
Non, mais effectivement, est-ce que c'est une vaste blague? Ou alors, est-ce que, effectivement, ça pourrait permettre de trouver une ligne médiane, en réalité, entre mélenchonisme et glucksmannisme?
Bah, c'est toujours pareil, ça dépend de l'ampleur de la primaire. La primaire, elle a fonctionné, en réalité, qu'en 2012, pour François Hollande, dans un contexte particulier de rejet du sarkozysme. Autrement...
Et de disparition de Dominique Strauss-Kahn.
Évidemment, et de disparition de Dominique Strauss-Kahn, mais il y a quand même eu une primaire. En 2007, c'est un fiasco, ils se font la guerre au Parti Socialiste. En 2017, je vous en parle même pas avec Benoît Hamon. En 22, Hidalgo, je sais même plus si elle a gagné une primaire.
Non.
Mais
non.
Elle a été. Et comment a-t-elle été désignée? Qui s'est retrouvé à mettre Hidalgo à la tête de la.
Carole Delga, des personnes brillantes dans ce genre.
Je crois, un truc comme ça.
Bon, OLR, Fillon, ça a pas été un grand succès. Voilà, ce système de primaire, il est quand même globalement assez, assez bancal.
Mais alors, faisons tous les candidats d'un coup à ce moment-là. Fabien Roussel, Clémentine Autain, François Ruffin, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, Delphine Bateau.
Tout ça, c'est
Olivier
la même
Faure. Oui, exactement.
Olivier Faure, il n'est pas dans la primaire. Hein.
Potentiellement, si.
Ah bon?
Oui.
Il est. Mais pas qui organise cette primaire?
Bah, alors justement, c'est la moitié du Parti Socialiste contrôlé par Olivier Faure, plus les écologistes, intégralement, plus le Parti Communiste, potentiellement le Parti Communiste.
Ouais, mais là, vivement.
Et, donc, et Hollande, il ferait pas et l'après, pas, malgré. Même si LFI n'y est pas.
Exactement. Non, mais effectivement, François Hollande a dit qu'il ne se retrouvait pas dans cette primaire.
En fait, c'est la primaire des petits, j'aime.
Oui. Mais justement, en fait, la seule personnalité, entre guillemets, intéressante, mais qui est un peu un marronnier. Non, j'allais dire, c'est plutôt François Ruffin, qui, effectivement, est un peu un marronnier de la gauche, où, effectivement, tous les 5 ans, on se demande si jamais il a un potentiel, si jamais il arriverait à séduire la part du RN qui n'en a pas marre de l'immigration. Visiblement, ça ne fonctionne pas tellement.
Ouais, bon. Autain, aucune chance.
Oui.
Ruffin, Tondelier est très mauvaise.
Oui.
La seule, en fait.
Tondelier, vous savez qu'elle prépare ses éléments de langage, ses punchlines, c'est vraiment des trucs préparés sur ChatGPT. Hein. Enfin,
ah, bien sûr.
C'est très,
mais
très, très
mauvais. On le voit sur, toutes ces interventions. J'avoue, je ne les suis pas tous parce que je n'ai aucun problème de sommeil, donc je ne regarde pas d'intervention. Mais c'est en effet de bas niveau et honnêtement, c'est sans mauvais jeu de mots sur son parti, c'est une éolienne.
Pardon, excellente.
Non, ça c'est une mauvaise.
Non, pardon, c'est très mauvais, effectivement. non, mais j'oublie Ségolène Royal. Qui apparemment, effectivement,
oui, dans
le candidat dans le cadre d'une primaire.
Et que j'ai écouté tout à l'heure. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs primaires à gauche.
Non, il n'y en a qu'une seule.
Là-dessus, vous êtes sûr?
Oui.
Okay. J'aurais aussi dit qu'il y en a plusieurs pour le coup. En tout cas, certains sont favorables au principe d'une primaire, mais pas forcément avec ce qu'ils disent. Donc, c'est pas tant qu'il y en a plusieurs, mais que. Certains disent que la primaire, oui, mais pas
la primaire, c'est aussi du...
Oui, mais ça rappelle, pardon, j'y vais un peu en avance, mais les Républicains qui font une consultation auprès de leur parti pour savoir s'il faut faire une primaire... Enfin, c'est
non, c'est même pas pour savoir s'il faut faire une primaire, c'est pour savoir s'il faut faire une primaire entre gens de LR.
Enfin, exactement, oui.
Donc c'est en plus complètement hypocrite.
Bon, on arrive au vrai sujet de Célestin Rigaud, quand même.
Bah si, quand même, sur la primaire.
Excuse-moi.
Sur Royal, la primaire.
Du côté de la gauche. Selon moi, la seule hypothèse où cette primaire aurait du sens, c'est si vraiment elle embarque un maximum, si c'est en gros toute la gauche, même sans LFI, et que le candidat poussé par cette union de la gauche entre dans une vraie dynamique et montre qu'il peut se qualifier au second tour à la place de Jean-Luc Mélenchon, et là ça rebattrait les cartes, où on pourrait quand même avoir un candidat peut-être plus consensuel, qui pourrait plus facilement faire le barrage face à un candidat du RN, dans le cas où ce serait un candidat du RN en face, ce qui est vraisemblablement parti pour être le cas, Et parce que là, je regardais les hypothèses. En effet, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, c'est Jean-Luc Mélenchon fait 30% face à Bardella à 70%.
Je crois pas à ça, moi.
Bon, on en parlera plus tard.
C'est évidemment. Mais, et dans l'hypothèse où ce serait Marine Le Pen, ce serait pareil, une victoire à 65 contre 35. Donc pour l'instant, en effet, sur le second tour, même si c'est le seul à accéder au second tour, c'est l'inverse de Xavier Bertrand en 2022. C'est le seul à accéder au second tour, mais c'est aussi le seul qui fera perdre à ce point, oui, aussi largement, vraisemblablement, la gauche. Donc, une primaire qui lance son candidat, ça peut venir concurrencer.
C'est qu'il n'y a pas de personnalité en réalité.
Bah, c'est tout le problème. Et si un François Hollande, dans une primaire comme ça, qui remporterait la primaire, pourrait avoir le poids nécessaire. Et François Hollande, il ne faut pas l'oublier, et plutôt très populaire malgré son bilan. Les gens ont un peu oublié, ça fait 10 ans maintenant.
Venons-en, ils ont oublié. Stanislas Rigaud a une analyse effectivement particulièrement pertinente sur François Hollande. On vous écoute, Stanislas.
Bah écoutez, Hollande, il y a plusieurs choses.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Non, mais allez-y.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Allez-y.
Parlez dans bien proche du micro.
Mais d'accord, mais je sais qu'il y a Alexandre Galzin là en face de lui tous les matins, ce qui me donne plutôt envie de m'en éloigner fortement et de faire attention à ne pas, pas choper de microbes. Mais... non, François Hollande, bah écoutez, François Hollande, déjà, c'est notre discussion depuis quelques temps, Alexandre, mais il est de retour. Quoi qu'on dise, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ça va beaucoup dépendre du niveau d'âge et d'expérience des autres candidats. C'est-à-dire que plusieurs scénarios sont en train de se dégager. Un scénario, on a des candidats très jeunes, Jordan Bardella, Sarah Knafaud, Gabriel Attal, Glucksmann, même Tondelier, etc. Puis un autre où on a Dominique de Villepin, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Fabien Roussel. Et là, dans ce cas-là, on se trouve avec une élection beaucoup plus âgée. En fonction de ces scénarios, les partis, les mouvements, les électeurs, les primaires, ce que vous voulez, vont quand même de fait devoir infléchir leur position et leur stratégie. Il y a aussi la question du contexte politique dans lequel va s'inscrire cette campagne. Si le seul sujet de la campagne c'est la crise internationale, un ancien président de la République ou un ancien ministre des Affaires étrangères ou Premier ministre, c'est quand même des profils qui ont des avantages comparatifs assez puissants. François Hollande, quoi qu'on dise, au niveau, pour revenir à ça, quoi qu'on dise, enfin à notre ancien président, Trump et Poutine, il a traité avec eux. Aujourd'hui, Macron, s'il se dit sur la scène européenne, c'est le seul, c'est le chef d'État européen qui a le plus d'expérience aujourd'hui, qui a une forme de, pareil, que l'on trouve ça déplorable ou pas, bon, ça fait 10 ans qu'il est là, et mine de rien, au niveau international, il est connu de tous, et il les a tous rencontrés, tous traités. Je dis pas qu'il le fait bien, simplement, il a une expérience. En fonction de qui sera le candidat, et au Rassemblement National et d'autres, la gauche s'adaptera aussi. Et puis François Hollande, et ça c'est important à avoir en tête, il est redoutable en campagne. On l'a pas vu venir en 2012. François Hollande, il a perdu 15 kilos en 2012. Il est arrivé, c'est un tueur politique. C'est un tueur politique qui a toujours écrit les papiers des journalistes, qui est doté d'un humour formidable.
Ce que
je n'ai pas
dire, c'est une très bonne relation presse. On peut le voir notamment avec son numéro dans Marianne.
Sur Marianne.
Exactement, où il dit je suis de retour et finalement il se fait. J'ai lu un petit peu ça, mais il se fait pas particulièrement allumé, oui, alors que c'est Marianne quand même, c'est pas un journal qui est particulièrement pro-Hollande non plus.
Mais regardez toutes ces interviews, déjà simplement, c'est passionnant. Et écoutez, Hollande Villepin en ce moment, il ne parle jamais de la petite politique, il ne parle que de la France avec un grand F, il ne parle que des grands enjeux parce qu'il parle d'international, et ils ont une stature. Il était chez Quotidien il y a de ça 10 jours, François Hollande, bah, il parlait de la crise, et son avis comptait. Alors il est comment Poutine dans la... quand on le rencontre. Je veux dire, Poutine, c'est vrai que moi, je l'ai rencontré, je l'ai même affronté, confronté avec Mme Merkel à l'époque. Et puis, deux autres éléments qui me semblent tout à fait intéressants. Le premier, c'est, et par la force des choses, nous vivions mieux sous François Hollande,
oui,
que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un effet nostalgie, un effet rétroactif de « Ah bah, quand j'ai François Hollande en 2012, ah, j'avais 13 ans, ah bah, c'était quand même le temps de mon insouciance. » Et puis, la gare de Nantes a été moins craignose. Ah, et puis, l'économie française, elle est quand même un peu mieux. Et puis, ah, bah, y a quand même moins d'affrontements et de violences dans la rue.
Oui.
Donc, il y a toujours cet effet un peu nostalgique qui peut être favorable. Et puis, enfin, le dernier élément, qui est pas non plus inintéressant selon moi, mais c'est les changements de style de président en fonction, enfin des changements de cycle de style de président. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Jacques Chirac, c'est un personnage plutôt rond et consensuel au sens de il n'a pas eu comme d'autres des réels. S'il a été président, c'est qu'il avait une grosse base d'admirateurs évidemment et de personnes qu'il apprécie immensément. Mais il n'y a pas eu de Chirac mania quand il se fait élire.
Non.
Il n'est pas clivant. Puis on a Sarkozy qui lui est clivant. On a ensuite Hollande qui est plus rond. Enfin qui.
Physiquement, oui, même.
Et non, mais physiquement, vous avez raison. C'est dans le style. Sarkozy et Macron, par exemple, font dynamique, font impulsifs.
Sont des nerveux.
Des nerveux. Quand Hollande, Chirac, sont plutôt mous. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'en 2027, les Français ne voudront pas aussi d'un président plus normal, moins arrogant. Hollande, mais même à droite, oui. Les gens l'aiment pas politiquement, oui. Mais il n'est pas antipathique.
Non. Rapidement, Jérôme Gage, bon, est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler ?
Allez, on passe.
Oui.
Je pense.
Bernard Cazeneuve.
Mêmes arguments pour François Hollande dans un contexte de chaos, l'homme sage qui pourrait.
Même si moins. Enfin,
on n'y croit pas, mais.
À mon sens, beaucoup moins quand même, dans le sens où.
Il fait vieux.
C'est ça, Cazeneuve, et puis surtout, physiquement, en effet, oui. Visuellement, il fait vieux, ce qui n'est quand même pas je pense, surtout face potentiellement aux candidats qui seront en face,
oui.
Un argument en sa faveur, comme vous le disiez, Stanislas. Et au-delà de ça, il est peut-être plus associé à un bilan politique concrètement. Parce que c'est le rôle du Premier ministre, oui. D'être la main dans le cambouis, là où un président a plus de hauteur de vue. Et donc, c'est plus facile de se détacher, de prendre de la hauteur par rapport à un bilan. Parce que, j'étais président, j'avais des choix difficiles à faire, peut-être. Par rapport à un Premier ministre qui, du coup, forcément, c'est le fusible, c'est lui qui a les mains dans les affaires. Et donc, forcément, facile de lui trouver
Son bilan intérieur n'est pas reluisant non plus.
Nous allons faire une petite pause musicale, mais juste avant, je vais vous lire un autre courrier. Alors aujourd'hui, ça ne s'arrête pas, on ne peut pas tous les lire malheureusement, mais de Denis qui nous envoie « Bonsoir, Bardella au second tour, je n'y crois pas. Et une affaire Strauss-Kahn pour Bardella, ça ne m'étonnerait pas. Les cabinets noirs sont en chasse, bien courtoisement. Bah, » Écoutez, merci de ce courriel, cher auditeur. Je vous rappelle que vous pouvez en faire d'autres à cette adresse, à l'adresse suivante, latechnique@rc.fr. Je répète, latechnique@rc.fr. Et cher Denis, je crois que Jordan Bardella saura se défendre. Et surtout, Jordan Bardella n'a, il me semble, rien à se reprocher. Et
sur ce point, en tout
cas. Et à prouver, surtout, que c'était un excellent candidat. Et en 24 et en 2019, en 24 par deux fois, et qu'il est quand même rodé aujourd'hui à l'exercice des campagnes. Et ça fait longtemps qu'il est exposé. On se retrouve, chers amis, avec prolongation dans quelques minutes pour les 18 autres candidats. L'émission, c'est ce que je vous disais, pourrait être on aurait dû faire une émission spéciale gauche, candidat à l'élection présidentielle et une spéciale droite la prochaine fois. Je vous dis à tout de suite, chers amis, avec Alexandre Galzin et l'excellent Pierre Gallon. Et Galzin qui était excellent aussi.
Poison bouton noir, sous leur rabalais tous ces pays de Rennes, ces maréchins bornés. Ils couraient vers Fonte Close, dans la bise de Ventose, avec dans la tête une seule quête, prendre pour chef Monsieur Charette. Scapulaire au gilet, et dans la poche un chapelet. Vive Charette, vive Charette, vive son blanc plumé, avec panache et les fringants, à la tête de ces brigands. Vive Charette, tant qu'une roue restera, la charrette roulera. Se camouflant de Kléber, comme des loups dans leur tanière, au cri de Rambard, tous ces moutons noirs s'abattaient sur les soudards. Et le soir, pour ouvrir le bal, Charette n'avait pas d'égal. L'Olympe vendéen fait de maréchins danser autour du butin. Scapulaire au gilet, et dans la poche un chapelet. Vive Charette, vive Charette, vive son blanc plumé, avec panache et les fringants, à la tête de ses brigands. Vive Charette, tant qu'une roue restera, la charrette roulera. Quand la terre de ses blessures regorgea d'un sang impur, tous très fatigués, on signala la paix au château de la Jaunette. Mais quand derrière ses couvertes
l'ennemi surpris charrette. Parole trahie, pris son fusil et s'enfonça dans le pays. Scapulaire au gilet et dans la poche un chapelet. Vive charrette, vive charrette, vive son grand plumet. Avec panaché les fringants à la tête de ses brigands. Vive charrette, tant qu'il nous restera, la charrette roulera. Paris peut crier d'orgueil, la Vendée faire son deuil. Le blanc chevalier s'est fait capturer et on l'emmène blessé. Le voici face à la mort et depuis c'est un peu fort. Tous les pelotons savent à la dernière salve. Messieurs, où ont-tu un bras? Scapulaire au gilet qui te sent s'immaculer. Vive charrette, vive charrette, vive ce grand plumet qui s'écroule sur la grève, mais la liberté prend la mer. La charrette, une roue s'est gardée pour les la liberté. La charrette, une roue s'est gardée pour les la liberté.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis auditeurs, très heureux de vous retrouver de nouveau sur cette antenne de Radio Courtoisie avec autour de la table Alexandre de Galzin. Bonsoir Alexandre, rebonsoir.
Rebonsoir Salutius.
Également Pierre Galland qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir et... Bonsoir Pierre, de nouveau bonsoir.
Bonsoir et à nouveau, bonsoir surtout, à nos auditeurs.
Et surtout, nous étions en plein tour d'analyse de l'élection présidentielle à venir un an avant.
Et on allait passer à Raphaël Glucksmann, c'est ça.
Alors Raphaël Glucksmann, peut-être que Pierre a surtout une analyse, Pierre Galland, parce que vous avez suivi les européennes à l'époque où il était candidat à l'élection de 2024, bien et sûr. Donc vous l'aviez un peu, d'une certaine façon, affronté.
Eh bien écoutez, Raphaël Glucksmann, c'est le... Alors, j'arrive pas, pour être très franc avec vous, à avoir un avis très tranché sur sa question, dans le sens où il faut quand même lui reconnaître une colonne vertébrale, dans le sens où il se soumet pas.
Il se soumet qu'à l'étranger.
Oh, pas mal.
Ah oui, mais c'est, enfin, pour le coup, c'est assumé et c'est sa ligne politique. On a le droit de le combattre et d'être en désaccord avec lui, mais pour le coup, il est pas comme un Olivier Faure à faire le paillasson devant la France Insoumise. Il assume de couper complètement les liens et il le fait, il va jusqu'au bout de sa logique. Donc de ce point de vue-là, il faut quand même lui reconnaître, même si je le combats sur à peu près toutes ses idées, bien sûr, quasiment, mais il faut lui reconnaître qu'il est droit dans ses bottes et qu'il a une ligne, colonne vertébrale, pardon, idéologique et une ligne claire, en effet.
Un cap clair, exactement.
Pour autant, je ne suis pas sûr, en fait... qu'il parle à beaucoup de monde à gauche.
Et ce que j'avais demandé, c'est d'une certaine façon, bah déjà, quel est l'électorat de Raphaël Glucksmann ? Et à côté de ça, il y a eu son débat face à Éric Zemmour, c'est déjà ce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, on le sait. Ce qui est assez étonnant, c'est que Raphaël Glucksmann avait pour ambition de se hisser justement au niveau intellectuel d'Éric Zemmour, parce que ça se voyait qu'il avait travaillé un petit peu quand même le dossier. D'une certaine façon, ça s'est avéré être une globale catastrophe. Éric Zemmour n'a pas été aussi parfait qu'il a pu l'être.
Il était excellent, Éric Zemmour. Il a remis le social traître de Glucksmann à sa place.
C'est certain que, en tout cas, le débat s'est déporté notamment sur l'international. Et effectivement, Éric Zemmour a plié Raphaël Glucksmann dans ce débat.
Ça fait plaisir à entendre. Non, mais Glucksmann, il bénéficie en revanche d'une chance d'être c'est un bon candidat de second tour, au sens où il pourrait être plus rassembleur ou plus facilement faire la synthèse d'un centre-gauche et d'une gauche un peu plus extrême qui, par nécessité, pourrait se rallier à lui. Maintenant, il est et peu charismatique et peu bon sur le terrain.
C'est un peu le Xavier Bertrand de la gauche.
Il y a un peu de ça, je suis assez d'accord.
En effet, excellente analyse, Pierre Galland.
Ouais, mais c'est très bon. Non, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est très bon.
Il est consensuel.
Il dit rien.
Il est suffisamment consensuel pour, en effet, être un bon candidat de second tour.
Il est d'ailleurs un peu en pause ces temps-ci.
Mais il est trop consensuel pour parvenir au second tour.
Et il m'a l'air un peu feignant, Glucksmann.
Ah oui, c'est pas mauvais comme analyse. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que vous regardez justement ce débat face à Eric Zemmour qui en fait
était de tension.
Non, mais c'était un peu son débat test dans le fond, parce que en réalité, tout l'enjeu de la gauche pour la prochaine présidentielle, c'est de savoir qui sera capable. Et d'ailleurs, l'enjeu de l'intégralité des candidats, c'est qui sera capable de battre le Rassemblement National. Et Raphaël Glucksmann l'a fait en se disant, je suis capable de me faire, pardonnez-moi l'expression, mais de me faire Eric Zemmour. Je peux le battre en débat. Je dirais pas que c'était une victoire écrasante d'Éric Zemmour non plus. Enfin, non mais tout à fait honnête. Non mais j'essaye de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Zemmour ce qui est à Zemmour. Je dirais pas que c'est une victoire écrasante d'Éric Zemmour non plus. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que dès que Raphaël Glucksmann a tenté d'aller sur son terrain, il s'est fait laminer. En petits morceaux, ça ne fait aucun doute. Et effectivement, on se souvient, ce qu'on retiendra de ce débat dans le fond, quand on le regardera dans un an, trois ans, cinq ans, c'est cette tirade d'Éric Zemmour sur Thomas, sur Lola, etc., où Raphaël Glucksmann est incapable de répondre de près ou de loin. Et on voit que s'il peut gêner légèrement Éric Zemmour sur l'international, légèrement encore une fois, dans le fond, sur les questions intérieures, il est vraiment pas du tout au point. Il a voulu se faire ce débat test comme Marine Tondelier a voulu se faire son débat test face à Marion Maréchal, et pareil, où elle a pas été au niveau.
Non, mais après ça c'est un débat un peu plus large, j'allais le sentir, mais là où pour la gauche ça va commencer à devenir très compliqué, c'est sur toutes ces questions de politique intérieure, notamment sécuritaire et identitaire. Ça devient vraiment sportif de défendre certaines positions. Et si soit on est la France insoumise, on est très 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 costaud et on assume tout en allant au bout de la logique, en étant juste au boutiste, en étant mélenchoniste ou bombardien, soit on se fait rouler dessus parce que Tondelier, elle peut pas se permettre encore de dire ouais, c'est bien de tuer du faf dans la rue, c'est bien de lutter contre la police et c'est bien de souhaiter que la France soit métissée à fond. Elle peut pas encore trop se permettre de dire ça, Glucksmann encore moins. Et le problème, c'est un autre sujet dans le sujet, c'est globalement le niveau de ces gens, mais d'ailleurs de tous ces candidats à l'élection présidentielle, qui sont en réalité tous des Dales quatrième couteau, qui se retrouvent à rêver de la présidentielle, preuve en est que le jeu est assez ouvert.
Ce qui me fait passer au candidat suivant, quand on va un peu plus au centre, Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui est une question très complexe, je trouve, parce que on se rappelle tous de son débat gagné face à Jordan Bardella, soyons globalement.
Ah, vous êtes dur là.
Non mais en tout cas, un minimum un match nul, ouais. Au mieux effectivement une victoire face à Jordan Bardella. Dans le fond, Gabriel Attal a montré que il avait une colonne rhétorique, disons, qui était assez bien dosée.
Bah oui, mais Gabriel Attal, il a fait un seul débat dans sa vie. C'est lui. Non, mais il est bon en plateau, il est bon médiatiquement, il est bon sur les réseaux.
Après, cette technique de victimisation, je suis pas sûr que ça fonctionne.
Ah, moi, je pense que ça énerve particulièrement les gens. Je crois que les gens souffrent dans leur quotidien, que les gens aiment bien les récits et les histoires, c'est vrai. Mais qu'à un moment donné, les types, les Français...
Surtout à une présidentielle où on n'a pas envie de voter pour une victime, pour quelqu'un qui soit un rassembleur, un vainqueur quand même.
Il y a vainqueur, mais surtout il a le droit d'avoir déjà un... Je vais vous dire, pour être franc, je ne sais pas s'il a réellement souffert profondément dans la vie, Gabriel Attal. C'est peut-être vrai, honnêtement, c'est peut-être vrai.
Il a dû avoir mal quand même.
Mais simplement, Gabriel Attal...
Il a été blessé, je pense.
Oui, mais attendez, son père alcoolique, c'est quand même...
Je parle pas de ça, mais oui.
Si Gabriel Attal il a été attaqué violemment, c'est vrai, et notamment vous faites référence, j'imagine, à Juan Branco qui est censé être son pourfendeur. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que les gens en ont assez d'avoir des moi-je, et qu'accessoirement, Gabriel Attal il n'a pas grandi. En Lozère, avec un père.
À l'école alsacienne, c'est ce que je vous dis. Fils de grand bourgeois, voilà, ça c'est certain.
Et que son père est picolé et était drogué, ça ressemble quand même plutôt au monde du cinéma, un peu déglingo de Saint-Germain-des-Prés.
Déglingo, c'est le mot.
Mais non, mais simplement, pour attendre, juste finir là-dessus, c'est important. Qu'il est, encore une fois, je ne juge pas les difficultés de sa vie. Je dis simplement que les gens ont ras-le-bol, trouvent ça grotesque. Et le grand paradoxe d'Attal, c'est qu'il est, je pense, plutôt de tendance gauchiste ou gauchisante sur tout un tas d'aspects. Il est vraiment
GPA,
il est relativement, il est plutôt progressif, il n'est pas spécialement attaché à l'identité nationale, etc. Mais les pics de popularité de Gabriel Attal, sont évidemment au moment où il est très à droite, quand il parle de la baïa, quand il parle de l'éducation nationale, quand il parle du SNU, quand il parle de justice, quand il dit
tu casses, tu payes,
etc.
Oui, c'est avec cette voix d'ailleurs, Pierre Galland.
À peu près.
Et surtout, en fait, Gabriel Attal, il passe après Macron, et ça va être le cas pour nos autres candidats. Va faire Macron parce qu'il essaie de se faire semblant de pas avoir de lien avec Macron. Il a fait 10 ans chez lui.
J'allais venir au candidat suivant qui a exactement le même problème, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, lui, pour le coup, qui a eu le temps de prononcer son divorce vis-à-vis d'Emmanuel Macron et qui, justement, a l'air de dire... Alors, encore une fois, on se rappelle, c'est quand même le Premier ministre sous les Gilets jaunes, c'est quand même le Premier ministre des premières années Macron, mais qui a bâti son parti, donc Horizon, et qui a eu le temps de se refaire un petit peu une image qui a été réélue assez triomphalement au Havre,
faut le reconnaître. Hein. Ah, pas du tout, justement. Ah, bah, alors là, je trouve que ça, c'est de la propagande médiatique.
Alors, dites-moi, je déteste dire ça, c'est une mauvaise analyse de ma part, mais
excusez-moi. Ah non, mais pas du tout, mais juste, c'est la preuve. Enfin, Attal comme Philippe sont bien la preuve qu'il y a quand même encore. Des journaux et des journalistes très complaisants avec eux.
Ah, ça c'est certain.
Attal, on explique le franc succès de son bouquin, les files d'attente, etc. Ouais, il y avait 350 personnes à Paris. Enfin, Bardella faisait 6 fois plus, je pense, à chaque dédicace. Et pour Philippe, la dernière fois, il est élu, si je dis pas de bêtises, au premier tour.
La première fois. Et là, il fait 47,7%. Et le communiste fait 41% quand même.
Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Et c'est en triangulaire avec un candidat RN qui se maintient, je crois. Honnêtement, je trouve justement.
Il fait 47 face à un communiste quand même. Enfin,
oui, c'est ça. Et face à un inconnu.
Oui, mais enfin, attendez, parce que Le Havre, c'est une ville qui a toujours été communiste, etc.
C'est vrai, c'est quelque chose différent.
Mais cela étant, Édouard Philippe m'a dit quelque chose que je trouve assez fascinant avec lui, c'est qu'il parvient à garder, quand même, dans la grande majorité des sondages, l'image d'un des hommes politiques préférés des Français, dans la plupart des sondages. C'est-à-dire que. Quand il y a cette question qui est posée, il se retrouve toujours dans le top 3 avec Jordan Bardella et Marine Le Pen.
Et Dominique de Villepin, surtout.
Non, un petit peu en dessous, Dominique de Villepin.
C'est celui qui domine tous les sondages de popularité des personnalités politiques en général.
Non, pas tellement. En réalité, Édouard Philippe, il y a quand même quelque chose qui est certain sur lui, c'est que la raison pour laquelle, selon moi, il arrive à ce tel niveau de popularité, c'est qu'il n'a pas de programme, on ne sait pas ce qu'il veut. Et il bénéficie de l'image du centriste de droite, ce qui est jamais risqué. Et à côté de ça, en réalité, on ne sait absolument pas quelles sont les idées d'Edouard Philippe.
Non mais plus
je regardais justement une intervention de Evelyne Delia. Exactement. Sur le plateau de Léa Salamé, dans quelle époque, si je ne dis pas de bêtises. Où justement, elle parlait d'Edouard Philippe. Et elle allait un peu dans ce sens-là en disant... Quand il parle, il y a quelque chose qui ne connecte pas, en fait, avec la réalité des Français. Il y a quelque chose de très abstrait, de très vague.
Mais il n'a pas un bilan si lourd non plus, c'est ça qui est assez étonnant.
Il y a une distance qui se crée, et c'est vrai...
Oui.
Bah, vous l'avez rappelé.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si lourd. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bilan qui est objectivement mauvais, mais c'est pas... En fait, il n'est pas resté suffisamment longtemps, notamment sur ces dernières années. C'est ce que je rappelle, qu'il est parti avant le Covid.
Si on est objectif, les gilets...
Après. Enfin, il a fait une partie
du c'est le tout début, mais après c'est
genre. Il a fait 6 mois.
Mais il fait quand même la partie compliquée du Covid qui est la tout début.
Enfin, il a moins bien géré, hein. Enfin, à savoir, on n'a pas de masque, on ne sait pas comment faire. Et,
Après, c'est pas forcément de son fait personnel.
Oui, mais ça, c'est jamais de la faute de personne.
Non, mais bien sûr.
Mais ça, Pierre, ça suffit en fait.
Non, mais c'est vrai, c'est stop en fait au bout d'un moment.
Alexandre, je vous trouve.
Non, mais votre horizonisme est effrayant.
Ouais, oui, c'est vrai, c'est...
Vous avez un plumeau très long ce soir, Alexandre, pour
dépoussiérer
les bottes de notre cher Stanislas.
Mais en basket, c'est ça. Non, mais sur Philippe, attendez, finissez par recevoir, il faut que j'ajoute quelque chose.
Mais donc sur Édouard Philippe, il faut malgré tout lui reconnaître, on parle de son bilan, les gilets jaunes, etc., par exemple. Pour le coup, c'est pas uniquement lui et c'est le résultat d'années évidemment derrière.
Il était secrétaire général de l'UMP en 2002, Édouard Philippe, il sort pas de nulle part.
Sûr, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable.
Depuis qu'il est chauve.
C'est sous ça.
Et quand Dieu sait que
c'est sous ça, sous son pas mandat, mais sous sa gouvernance que ça a explosé. Mais il n'est pas le seul responsable, loin de là. Et il ne faudrait pas oublier d'autres gens C'est surtout dans ce sens-là qu'il ne faut pas oublier les autres.
Moi, je vais vous dire, la campagne de Philippe va être très simple. Elle va être faite sur deux piliers. Un, je suis le seul qui peut battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Et le deuxième, c'est moi, j'ai de la stature et je suis l'équilibre entre les deux extrêmes. Oui. Ni le RN, ni LFI. Ça va être son grand mantra pendant 6 mois. Sauf que c'est un jupéiste de 1. De 2, Alexandre, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'oublie beaucoup de gens sur Fillon en 2017 en disant « Oui, c'est parce qu'il y a eu l'affaire des costumes. » C'est qu'il avait un programme très libéral, avec une retraite, l'âge de la retraite qui était repoussé, avec une suppression de fonctionnaires, etc. Et si Philippe veut l'hésiter dans le débat au centre et être le candidat qui gagne, non pas auprès des Français, mais auprès de leur électorat, dans l'espèce de primaire sauvage qui a lieu, il va devoir sortir du bois. Et pour l'instant, il ne fait rien. Et donc, évidemment.
Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est aussi populaire.
En politique,
mais il ne fait rien.
En politique,
donc, il ne peut
la seule phrase où les absents ont toujours tort.
On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.
Mais exactement, comme disait le cardinal de Retz, formule que vous connaissez bien, Alexandre.
J'ai lu.
Mais surtout, en politique, les absents ont toujours tort. On dit souvent, pardon, que les absents ont toujours tort, sauf en politique. Et donc, on est toujours plus populaire quand on est absent.
Maintenant, candidat suivant. Gérald Darmanin. Alors là, pour
le coup, excellent.
Mais cas intéressant, parce que Gérald Darmanin, finalement, se retrouve à incarner ce qui s'est fait de presque. Enfin, ça me fait beaucoup de mal de le dire, mais ce qui s'est fait de plus ferme en Macronie, à incarner, encore une fois, je dis que son bilan est catastrophique, ça y a aucun doute.
Oh, attendez, mais vous êtes dur.
Non, mais attendez, sur l'immigration.
Ah, j'aime beaucoup Gérald Darmanin.
Ah, Stanislas Rigaud est darmaniste.
Il a presque un meilleur bilan que Bruno Retailleau, quand même, objectivement.
Oui, peut-être que Bruno Retailleau n'a pas eu un très bon bilan.
Mais... Oui, mais déjà, ça étant, alors pourquoi vous aimez Gérald Darmanin? C'est intéressant.
Non, mais
pourquoi vous adhérez à Populaire?
Qui a
pourquoi vous rejoignez Populaire, c'est, ça serait...
Non, mais attendez.
Alexandre de Galzin est en train de prendre les rênes de l'émission.
Je me fais putcher, mais. Non, mais écoutez, c'est pas évidemment que la ligne de Gérald Darmanin n'est pas nécessairement la mienne. Mais je le trouve bon politique. Je le trouve relativement loyal et je trouve que son rapport au président est peut-être le plus sain des trois qu'on vient de citer, à savoir Attal, Philippe, qui n'était personne avant Macron et qui aujourd'hui, par intérêt, par lâcheté, par calcul, le lâche. Je considère que ce n'est pas le plus gauchiste de tous. Je crois qu'il s'est centrisé par intérêt politique, qu'il s'en est plutôt bien
vous
sorti.
Aussi,
ouais, bah écoutez, peut-être un peu aussi. Mais que lui vient vraiment d'en bas. Que c'est pas un petit prétentieux.
Sa mère, femme de ménage.
Mais c'est vrai, et j'ai regardé en effet, l'ambition intime sur lui de Karine Marchand m'a un peu séduit. Je vous prends une anecdote marrante.
Éric Zemmour, si vous nous écoutez, sachez que Stanislas Rigaud actuellement est en train de faire une sorte de coming out d'armaniste.
Évidemment, mais anecdote qui me l'a rendu très sympathique, il se dit que quand Bruno Retailleau est arrivé à Beauvau, les cuisiniers, les cavistes de la place Beauvau étaient extrêmement déçus puisque Bruno Retailleau a un régime de vie extrêmement strict où il ne prend que peu pas d'alcool et qu'il mange en effet des fruits secs, des graines et des menus extrêmement légers.
Austère.
Voire austère, quand Gérald Darmanin, quand lui occupait la place Beauvau, était plutôt amateur de bon vin et de bonne bouffe, et donc ça me l'a rendu sympathique. Bah écoutez, que voulez-vous, cher Alexandre, il en faut parfois peu pour gagner l'élection.
Et alors, passons.
Et c'est ainsi que Stanislas votera pour Fabien Roussel.
Exactement. Non, attendez, c'est une blague. Attendez un peu ce que je vais vous dire sur le reste de la droite.
Il nous reste que 30 minutes, Pierre Galland, excusez-moi, je reprends cette émission. Dominique de Villepin, en quelques mots.
Mais attendez, déjà, il aurait dû être mis bien avant Roussel. C'est un immense gauchiste qui a un seul fait d'armes. C'est un discours qu'il n'a pas écrit devant les Nations Unies, qui a été écrit par Bruno Le Maire. S'il n'y a pas une minute où il parle de son discours qui date d'il y a plus de 20 ans.
Il meurt, hein, je crois.
Je pense qu'il fait un AVC, c'est une catastrophe, il n'a aucune pensée idéologique. C'est juste quelqu'un.
Au-delà du fait qu'il est extrêmement vieux.
C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, et en fait, il s'exprime très bien, non pas par rapport à sa génération, mais par rapport à la génération qui le suit,
c'est
mauvaise, parce qu'il a été au pouvoir, ce gars-là, et qu'il a été Premier ministre, et qu'il a été mauvais, qu'il n'a jamais remporté une seule élection, et que Nicolas Sarkozy l'avait plié en deux. Et que le croc de boucher, il a fini par être accroché dessus, et on lui souhaite la même chose pour 2027.
Eh bien écoutez, c'est un excellent résumé, je pense. Xavier Bertrand.
Ouais, on va passer.
François Baroin, le baronnier éternel.
Moi j'aime beaucoup. J'aime énormément François Baroin.
Je vais prendre la parole.
Vous pouvez pas faire les deux, hein. Vous pouvez pas être intervieweur et interviewé. Hein.
Eh bien écoutez.
Ça s'appelle schizophrène, sinon.
La preuve que si. Il y a eu une émission, je crois, de Public Sénat qui est sortie il y a quelques mois sur justement la personnalité de François Baroin. Un reportage, je pense, d'une heure.
C'était très beau.
Sa voix grave et
quelle
sensuelle.
Quel charisme.
M'a fait particulièrement apprécier ce personnage.
S'il n'était pas.
Non, mais sérieusement, en fait, François Baroin, s'il avait des idées.
Mais il en a, le pire.
Et vous le pensez réellement?
Ah,
parce
oui,
que
oui.
De ce que j'ai pu voir, à part être à la Grande Loge du Grand Orient ou je ne sais pas quoi, il n'a pas tellement d'idées.
Bah
hein.
Si, il est laïcard, forcené, européen, convaincu. Non mais, il a des idées.
Mais son charisme est exceptionnel, il faut l'admettre.
Il faut reconnaître que c'est...
Finalement, même pour des personnalités beaucoup plus radicales que lui, comme nous, Stanislas...
Oh, mais Baroin, premier tour, qui arrive en veste barbour, en sortie de chasse, on aime bien quand même.
Bah oui.
Bon, le problème, c'est qu'il sort pas de la messe le dimanche.
Je veux dire, c'est un petit peu le plaisir, on va dire le péché gourmand de la droite. C'est finalement une personnalité qu'on aurait adoré voir vraiment de droite... Et qu'en réalité, on regrette de...
Oui, mais c'est encore toute la faiblesse de la droite. C'est-à-dire que quand Dominique de Villepin, qui vient de la droite, se la joue plus gauchiste que gauchiste, personne à gauche ne se laisse prendre et le prennent tous pour un guignol. Quand nous, dès qu'on a des types qui ressemblent un peu à des gens de droite, on est incroyable. Mais sur Baroin, attendez deux secondes. Et ça, c'est toujours... C'est Éric Zemmour qui m'a toujours dit ça, et puis d'autres qui ont dû l'écrire, mais... C'est le Baroin. Il se dit qu'il est brillant, c'est plutôt quelqu'un de fin, intelligent, sympathique. Qu'il aime les gens, c'est un bon maire de Troyes, tu fais du bon boulot, mais que profondément, il aime la vie, il aime la chasse, il aime
sa famille et
profiter du bon temps et du bon vin, et que globalement, en fait, la présidentielle, il s'en moque un petit peu. Voilà, c'est un peu toujours ce qui a
été
dit.
Le reportage de Public Sénat, encore une fois, disait qu'il avait certaines ambitions, lui-même le disait, etc. Bon.
Oui, mais à chaque fois, regardez bien dans quel contexte il s'inscrit. Baroin, il s'inscrit dans le « Je peux être un recours s'il n'y a plus personne et que je suis le seul sans adversaire de mon camp. »
C'est quand même vraiment... C'est pas un type qui prend des risques, François Baroin.
Ah non, très peu.
Mais
avec un peu... Attendez, parce que juste... Ça, c'est très marrant, parce qu'avec M, un ego, il y a du caractère. Parce que Juppé, par exemple, et ça, c'est des petits éléments d'histoire. Enfin, d'histoire politique, des petites histoires, des petits récits. Mais Juppé, à l'époque, quand il y a le gouvernement Juppé... Et Juppé les vire tous, ce qu'on appelait les Juppettes. François Baroin, lui, est au gouvernement et se fait jeter manu militari par Juppé.
Oui.
Depuis, Baroin n'a jamais pardonné à Juppé et donc aux juppéistes ce qu'il lui avait fait, parce qu'il a considéré à l'époque comme une humiliation.
Bien sûr.
Et de fait, par exemple, il déteste Philippe.
Mmh.
De fait, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Christian Jacob, qui lui était un Chiracien, pendant longtemps, n'a pas aimé les baladuriens, les héritiers de Balladur.
Ouais.
Et donc, c'est tous ces petits éléments qui paraissent anecdotiques aujourd'hui. Villepin-Sarkozy, par exemple, il faut être persuadé que Sarkozy, jusqu'à la fin de sa vie, fera tout pour empêcher Villepin d'arriver au pouvoir. Hollande, Cazeneuve sont très, très copains. Mélenchon-Hollande, on aurait dû en parler, mais Hollande a massacré au congrès de Brest en 97. Oui. Mélenchon, ils avaient dealé 85-15, il lui a mis 90-10, il l'a humilié. Mélenchon l'a jamais oublié, mais c'est le seul qui l'a battu par deux fois déjà.
Oui. Candidat suivant, bien plus centriste, bien plus central plutôt que centriste, central à droite, Bruno Retailleau.
Alors, vous avez loupé des gens là, non?
Non, pas tellement en réalité.
Vous avez loupé Borne, Castel, c'est tout.
Oui. Je prends les candidats qui sont déclarés plus ou moins quand même. Bruno Retailleau, honnêtement, ce qui est assez fascinant, c'est son lancement de campagne, qui est une catastrophe absolue.
Je sais.
Vous qui êtes spécialiste de la communication politique, c'est Cécile Rigaud.
Ah bah je sais pas s'il paye cher son communicant, mais j'espère qu'il est. J'espère qu'il sera remboursé par les comptes de campagne, parce que c'est quand même pas très original.
J'ai quelques bonnes adresses à lui conseiller
non,
si tu cherches à...
C'est pas ça, c'est que...
Lexus.fr.
Le problème, c'est que Bruno Retailleau, il est dans... C'est un peu ce qu'on écrit depuis le début, c'est-à-dire qu'il veut être en même temps El Famoso quand... droit de gouvernement, en responsabilité, en respectabilité, sans pour autant n'être partie prenante d'aucun bilan de personne. Et de l'autre côté, il veut être moderne et disruptif. Et non, attendez, moi, c'est le changement.
Je vais vous dire, la fin de Bayrou, ça a été sa signature.
Non, mais honnêtement, c'était difficile pour lui.
Hein. Non, je pense qu'il s'en remettra jamais, dans le sens où, si vous voulez, pendant un an, Bruno Retailleau, malgré tout son bilan, malgré tout, a été quand même un peu au-dessus de toutes les querelles politiques, a été un petit peu...
Il est vachement bien, Retailleau, ça, il n'y a pas de doute. Hein.
Non, mais je pense bien. Non, mais il est dans notre sens, ça ne te fait aucun doute. Mais dans le fond...
Je respecte beaucoup, Retailleau.
Non, mais bien sûr. Et en fait, dans le fond, même, sans doute que, humainement, c'est un père de famille vendéen, catholique, plus ou moins traditionnaliste, enfin, quelqu'un qui, non mais dans le fond, quelqu'un qu'on a des raisons d'apprécier pour sa personne. D'un autre côté, c'est vrai qu'il est comptable de son propre bilan, ça c'est un premier point. Et deuxième point, c'est au niveau plus stratégique. C'est vrai que, bah, en fait, il a essayé de se placer au-dessus des partis. Dès qu'il y a une vraie crise, bah, en fait, il a complètement dévissé.
Ah, et puis surtout, là où je vais être un peu cruel, c'est que je l'écoutais sur France Inter quand on lui demandait comment il fallait faire face à Trump, etc., etc. Il disait oui. Il faut être ferme, ce sera ma politique, etc. Et je crois que c'est Benjamin Duhamel qui lui dit, mais globalement, vous n'arrivez pas à tenir Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, oui. Xavier Bertrand. Donc oui. C'est vrai qu'il y a un peu ce décalage aussi entre...
Même Darius Rojemont lui disait, dans justement l'entretien qui a mené à sa campagne présidentielle, ouais. Vous n'arrivez pas à gérer Laurent Wauquiez, comment voulez-vous gérer la France?
Non mais ça, vous savez, c'est des petits signaux faibles, ces choses-là, qui disent long. Mais tout comme, par exemple, Hollande, je reviens sur Hollande. Hollande, dans sa vie privée, est un tueur. Mais enfin, un tueur au sens où il n'a eu aucun mal à se séparer de ses femmes. Enfin, on sait qu'il est... C'est par exemple quand Nicolas Sarkozy, c'est parfaitement décrit dans un livre que je ne citerai pas pour ne blesser personne, mais qui est La cause du peuple de Patrick Buisson, on découvre toute la partie émotionnelle de Sarkozy, qui en réalité est plutôt un tendre, affectif, etc.
Livre passionnant, hein, c'est ça.
Livre brillantissime. On comprend à l'inverse que François Hollande est un tueur. Oui. Et on le voit au niveau de la politique internationale. Mitterrand et Hollande sont ceux qui ont fait le plus tuer.
Oui.
Dans le
c'est
cas
littéralement
de...
un tueur quelque part. Oui.
Exactement. Donc, quand Sarkozy ou Chirac, en réalité, sont beaucoup plus dangereux.
Candidat suivant, intéressant aussi d'une certaine façon parce que il instille de nouvelles. En fait, presque plus sur le débat d'idées, David Lisnard. C'est-à-dire que, en fait, David Lisnard, il essaye de. Non, mais en fait, en tant que personne, je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Mais en revanche. Moi, je vais vous dire, Stanislas, vous savez quoi, je vais vous surprendre.
Vous n'êtes pas anti-libéral?
Non, mais si, justement. Et vous savez quoi, j'ai réécouté l'autre jour un débat de 2021.
Non. Zemmour et Lisnard.
Exactement, entre Éric Zemmour et David Lisnard, débat que j'ai trouvé absolument passionnant. D'accord, c'est... J'écoutais en revenant de ligne
mais
droite.
Mais à chaque fois, vous dites du bien de Zemmour, on a l'impression que ça vous étonne.
Je pense que ça vous étonne plus que ça ne m'étonne. Mais en réalité, débat absolument intéressant, justement parce que les deux personnages qui sont finalement révélés, qui ne l'étaient pas à l'époque en 2021, mais qui se sont révélés des candidats à la présidentielle, débattent de la place de l'État. Et on voit que dans ce débat, Éric Zemmour est extrêmement étatiste et justement est extrêmement favorable à la conservation des structures actuelles de l'État et à une forme de bonapartisme, alors que David Lisnard, justement, est pour une forme de débureaucratisation décentralisatrice. David Lisnard a ce... je trouve qu'il a un côté très cosmétique qui est assez surfait en termes de personne et qu'en réalité il n'a pas tellement de charisme, il n'est pas tellement capable d'emmener les gens. D'un autre côté, ce qui est certain, c'est que il essaye un petit peu de repousser les limites, d'avancer des idées et de finalement, je ne vois pas ce que vous, mais de repousser les limites, d'avancer certaines idées. Dans le fond, en tant que candidat, je ne sais pas. Mais en tant que, j'en sais rien, ministre ou premier ministre ou à force d'appoint d'autres personnes...
Mais je ne comprends pas.
Il n'est pas inintéressant.
Si vous êtes anti-libéral, qu'est-ce que vous lui trouvez?
D'être libéral.
Mais si vous êtes anti-libéral, Alexandre...
Non mais justement, en fait...
Là, je trouve très sérieux.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est une des rares personnes qui revendique foncièrement son libéralisme en France et qui, à côté de ça, par certains moments, peut avoir... je peux le reconnaître une forme de on va dire de poujadisme plus que de libéralisme dans le sens où effectivement tout le monde a envie de réduire le millefeuille
mais c'est ce que j'allais vous dire. En fait, le sujet sur David Lisnard comme sur les libéraux en règle générale, le problème il est très simple, c'est que ça dépend ce qu'on met derrière libéralisme.
Ouais.
Si être libéral c'est être pour dire bon, on n'a peut-être pas besoin de 17 strates administratives pour pouvoir payer la CAF et d'avoir 17 numéros à appeler pour avoir accès à des soins. Est-ce qu'on a besoin de peut-être autant taxer dans ce pays, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de dépenser autant d'argent pour autant de bêtises? Si ça, c'est être libéral, je crois qu'on est, on l'est tous. Si maintenant le libéralisme, ça s'inscrit aussi dans une logique qui s'aventure sur les sujets sociétaux, sur la liberté individuelle, sur la liberté d'expression, mais aussi sur les questions du conservatisme ou non de la société. Là, c'est un autre débat. Oui. Parce que allons au bout de la logique. Si le libéralisme, c'est cette logique de marché, et que de fait, ça amène au sans-frontiérisme, bah attention, moi, je serais un peu plus prudent. Oui. Maintenant, David Isnard est quelqu'un d'intelligent, de courageux. C'est aussi visiblement un bon maire, Cannes. Ça, je le crois sur parole.
Il a été réélu à plus de 80%.
Ah oui, oui. Et c'est pas une ville si facile que ça, Cannes. Parce que c'est pas la ville. C'est pas que la ville des.
Je suis jamais allé, je vous avoue, mais.
En fait, 3 semaines par an, plus les 2 mois d'été, ça brille et la ville est prospère à ne plus savoir quoi en faire. Mais le reste du temps, c'est justement souvent des personnes qui travaillent dans l'organisation de ces choses-là, mais pas du tout à des rôles prestigieux.
Et ce que j'allais dire, c'est qu'un des rares points sur lesquels je suis, libéral et sur lequel David Lisnard a avancé légèrement, pas assez courageusement selon moi, mais légèrement, c'est un sujet, c'est la question des retraites. Où en l'occurrence, alors qu'il est dans une ville qui est effectivement est principalement occupée par des retraités, il a proposé de réduire certains avantages pour les retraités. Mais on peut passer aussi, si vous le souhaitez, au candidat...
Sur David Lisnard, je vous trouve quand même très... très sympathique avec lui. Et c'est peut-être justement parce que vous n'êtes pas libéral que vous l'appréciez.
C'est ce qui est étonnant, mais oui.
Mais justement, c'est parce que honnêtement... C'est un peu au-delà du fait qu'en effet, il manque cruellement de charisme à mon sens.
Ah, j'ai pas dit ça.
Ah, mais moi, je le dis.
Ah, pardon.
je le dis. Je sais pas si vous avez regardé ces diverses interventions. C'est quand même un peu gênant. Par moments...
Oui, il n'est pas très clair.
Il n'embarque pas forcément l'assistance avec lui dans ces trucs. Et c'est pas forcément toujours très clair. Mais qu'importe. Sur les idées... Pardon, il ne fait pas avancer grand-chose non plus. C'est des idées qui, en théorie, devraient être de droite. Et je pense que c'est plutôt que... C'est peut-être le seul à rester sur ce genre d'idées-là, là où LR se fait quand même très discret. Et en tout cas, on l'a vu ces derniers temps, dès qu'ils avaient le pouvoir, même quand ils ont eu plusieurs premiers ministres, où clairement, ils n'étaient pas dans une logique débureaucratiser, de baisser les impôts, etc., etc. Et je pense que c'est plus que c'est le seul à rester dessus et à rester sur ses appuis que le grand pourfendeur ou qui, je pense que sur ce sujet-là, c'est pas celui qui fait avancer le plus le sujet. Et à mon avis, il faut aller chercher un peu plus à droite. Du côté de Sarah Knafo sur ces idées-là.
Alors, avant de passer à Sarah Knafo, peut-être Nicolas Dupont-Aignan, qui, encore une fois, est candidat.
Pierre, c'est... peut-être bon, je pense, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Dupont-Aignan et pour sa personne, hein, bien sûr, mais, bon, je m'interroge sur la plus-value de sa candidature à droite, où très objectivement, il n'a pas fait des très gros scores les dernières fois.
Et surprenant d'ailleurs qu'il ait réuni à chaque fois plus de 500 candidatures.
Mais parce que c'est tant mieux que les gens se présentent, non, et Dupont-Aignan est courageux.
Bien sûr. Mais justement, je dis pas le
tant mieux qu'il y ait des Dupont-Aignan et que...
On n'a jamais dit le contraire, ça.
Je ne dis pas
non,
le contraire.
Non, mais je vois venir.
Non, parce que justement, je ne suis pas du tout le partisan de dire « Vous allez vraisemblablement faire un petit score, donc ne vous présentez pas ». Qui est l'argument de oui. certains candidats qui veulent un monopole uniquement.
Personne ne veut de monopole, personne.
Sauf les candidats dont on va parler dans un instant, qui sont justement Jordan Bardella et Marine Le Pen.
Mais ils veulent pas de monopole, ils ont envie que le pays change.
Ils ont envie d'avoir un monopole à droite.
Veut le monopole politique et faire 50 plus 1.
Et voilà. Dès le premier tour. C'est-à-dire qu'en fait, là, on arrive au grand sujet quelque part. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux grands sujets, mais l'un des deux, il nous reste 18 minutes.
Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, avec la pause musicale, sera.
Il n'y a plus de pause musicale, si vous ne pouvez pas vous échapper comme ça.
Il y en a une deuxième en stock.
Jordan Bardella et Marine Le Pen. Déjà, premier point, c'est qu'il faut rappeler que Marine Le Pen n'est pas complètement
hors course. Exclure du jeu, pas du tout.
Non, parce que en réalité, je crois que quelque chose qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que il y a eu justement cette, enfin Marine Le Pen a consulté beaucoup de juristes récemment, et ce qui en est ressorti, c'est que si jamais son inéligibilité passe de 5 ans à 2 ans, à partir de ce moment-là, elle pourra être candidate à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que son jugement premier avait été rendu, il me semble, en mars de l'année dernière, donc en mars 2025. Et justement, il faut que le jugement soit rendu. Eh bien, en fait, il faut que l'éligibilité s'arrête, non pas à partir du moment où on dépose la candidature,
mais le jour du scrutin.
Ce qui fait que si l'inéligibilité de Marine Le Pen est réduite à 2 ans, elle pourra effectivement se présenter. Beaucoup de gens, beaucoup de sondeurs, beaucoup de médias tendent à expliquer que ce sera Jordan Bardella. Et d'ailleurs, Marine Le Pen est de moins en moins testée dans les enquêtes d'opinion. Cela étant, sa candidature n'est pas encore tout à fait improbable. Moi, la question que je voudrais poser auprès de vous, c'est est-ce qu'il y aurait réellement une différence entre une candidature de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen ? Et si oui, laquelle favoriserait le camp national ?
Mais attendez, il y a quand même un autre élément sur Marine Le Pen, c'est que si, même si elle n'est condamnée en effet qu'à 2 ans d'inéligibilité, il y a le sujet du bracelet électronique
et, oui.
et de la façon dont elle fera campagne. Donc Marine Le Pen, on sera fixé le 7 juillet.
Non mais ça joue là, dans la question que je pose, effectivement.
Ah bien sûr, mais je n'ai pas dit que je rajoute ce point. Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur candidat entre Jordan Bardella et Marine Le Pen ? Moi, je crois pas. Je crois que les deux ont vraiment une... Non mais c'est vrai, au sens où ils ont tous les deux des atouts bien différents. Je crois qu'ils se complètent d'ailleurs aujourd'hui plutôt bien. Le sujet, en réalité, il est plutôt à prendre dans l'autre sens. C'est comment Marine Le Pen, si elle ne peut pas être candidate, aidera Jordan Bardella. Maintenant, Jordan Bardella est une marque aussi à lui seul. Et ce qui est certain, c'est que les deux aujourd'hui, visiblement, sont au second tour sans trop de difficultés. Marine Le Pen a aujourd'hui une expérience qui est certaine de ces campagnes-là. Elle est rodée. Là, ce qu'ils font avec les patrons, et quand même, notamment depuis l'arrivée de François Durvie au Rassemblement National, est impressionnant.
Ce qui est d'ailleurs assez intéressant sur ce point en général, c'est que Marine Le Pen souffre de la marque Le Pen par Jean-Marie sur certains points, tandis que Jordan Bardella souffre de son inexpérience sur d'autres. C'est-à-dire, en fait, finalement, qu'est-ce qui va prévaloir ?
C'est là qu'ils sont très complémentaires.
Oui, mais bien sûr, mais dans le fond, qu'est-ce qui pourrait prévaloir dans une élection présidentielle ?
Mais ça dépend de la... C'est là où je vous disais, on en revient un peu au sujet du reste des candidats, mais c'est pas la même chose si la moyenne d'âge des candidats et pardon si j'entends Attal ou Glucksmann parler d'expérience et qu'il y a Marine Tondelier qui est candidate et qui disent oui Jordan Bardella n'a pas d'expérience, pardon, ça va faire sourire tout le monde, c'est-à-dire que ces gens-là non plus n'en auront pas tellement.
Jordan Bardella a probablement plus d'expérience
oui, tout à fait.
En politique que tous ces gens-là.
Et bien sûr.
Puisqu'il est en effet très jeune, mais il a commencé la politique
après,
très jeune.
Après, c'est pareil. Moi, je peux vous faire les attaques qui seront faites contre Jordan Bardella.
Allez-y.
Ça va être rapide. Hein. Ils vont lui dire « Ah oui, mais vous l'imaginez avec le bouton nucléaire ? Est-ce que vous l'imaginez ? Est-ce qu'il a déjà géré une entreprise ?» Bah oui, ça serait, ça saurait que si les personnes qui gouvernaient le pays depuis 50 ans avaient bien réussi à le faire, ils sont
Macron
tous de là.
Macron n'a jamais géré une entreprise.
Comment ?
Macron n'a jamais géré
une
entreprise.
Plus, hein. Mais non plus, mais tout ça, c'est du baratin. On nous explique depuis des années que tous ces gens-là sont des génies. C'est d'immenses guignols depuis 50 ans. L'âge n'est pas un critère. Les plus grands dirigeants de ce monde, depuis la nuit des temps, n'ont pas eu besoin d'avoir 50 piges. Et c'est pas
parce qu'on a lu que l'étranger de Albert Camus que forcément.
Mais je suis pas sûr que ce soit le phénomène Bardella là-dessus. Je crois que c'est un phénomène plus générationnel au global, malheureusement.
Micro sujet dans le sujet. Maria Carolina.
Il y a très bonnes équipes autour de Jordan Bardella qui, je crois, est aussi à souligner. Encore une fois, l'arrivée de profils plus business autour d'eux,
oui,
ils sont pas mal.
Oui, oui.
Maintenant, Maria Carolina, je trouve que visiblement ils sont victimes d'une paparazzade.
Arrêtez ça, vous êtes grotesque. Jordan Bardella lui-même reconnu.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Vous avez certainement vu l'entretien, enfin, là-dessus, micro sujet dans le sujet, positif, négatif.
Mais plutôt positif, maintenant, il faut pas que ça devienne people, tout comme on le disait pour Attal. Je comprends par l'argument de Jordan Bardella d'avoir ras-le-bol dans des paparazzi en bas de chez lui, ça doit être un fait. Il a bien fait de dealer, de faire ce deal avec Paris Match, voilà.
Oui, dans tous les cas, ça aurait fini par se savoir
oui,
un jour ou l'autre.
Bon, ça se savait déjà.
Non, mais ça se savait déjà, autant qu'officialiser la chose. Et maintenant, voilà, ils peuvent vivre tranquillement. Ils auront toujours
qui pariait sur le retour des Bourbons sur le trône de France il y a encore 6 mois.
Merveilleux. Enfin, dernier sujet. Ça serait que vous êtes particulièrement informé là-dessus, donc je ne doute pas que vos éclairages seront absolument passionnants.
Je ne suis que très peu informé, je ne suis pas journaliste.
Non mais dans le fond, par vos ancêtres, non mais on peut le dire, je pense à cette antenne, vous êtes l'ancien président de Génération
Z.
Ça suffit là.
Vous révélez des secrets.
Éric Zemmour, Sarah Knafo, qui Yves.
Je crois que c'est pas le sujet. C'est
un peu.
Déjà, Éric Zemmour a dit, il a redit. Qu'il n'était pas Xavier Bertrand, donc il n'allait pas s'annoncer 2 ans avant l'élection sans aucune raison, sans timing.
Enfin, là, ça arrive en novembre, enfin en septembre, le délai est court.
C'est vrai, mais je crois qu'Éric Zemmour a maintenant une expérience forte de sa dernière campagne. Il est là pour le débat d'idées, il y est très attaché. Il a la chance d'avoir Sarah Knafo qui a fait, je crois, de façon assez unanime, une belle campagne à Paris. Je lisais Marc Chesneau dans Valeurs Actuelles cette semaine, qui écrivait que même d'anciens ministres, même autour de d'Emmanuel Grégoire, ont salué sa campagne courageuse. Donc voilà, que voulez-vous, c'est plutôt un duo qui s'est mis en place plutôt qu'un duel.
Donc pour vous, est-ce que c'est la même chose, le Bardella Marine et le Zemmour Knafo?
C'est deux duos, ça c'est certain. Et ce n'est pas des duels. Ce ne sont pas des duels, pardon.
Mais est-ce que finalement, donc, pour vous, dans les deux cas, est-ce qu'ils sont totalement interchangeables?
Mais la nature humaine ne l'est pas, Alexandre.
Vous parlez par exemple de l'âge des candidats.
Vous n'êtes pas interchangeables avec Kislock et vice-versa.
Pourtant, vous êtes tous les deux
aussi talentueux, j'ai une préférence pour Lizelotte.
Je comprends parfaitement, moi-même, j'ai une préférence entre Lizelotte et moi-même. Mais de manière générale, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même... vous parlez de l'âge des candidats.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, se décidera à Reconquête en fonction de la question de l'âge des autres candidats? Comment ça pourrait se décider, selon vous?
Mais c'est Éric Zemmour qui est le président du parti, qui prendra sa décision, à ma connaissance, parce que vous l'avez rappelé, je ne suis plus dans ce mouvement, en tout cas, je ne suis plus dans les instances, j'y ai conservé de grandes amitiés, et politiques et humaines. Maintenant, de ce que je comprends, de ce qui est dit, c'est qu'Éric Zemmour prendra sa décision de savoir quand il se présente, mais visiblement, il a l'air...
C'est pas une question de si.
Bah,
c'est ce que vous venez de dire.
Bah, c'est ce qu'il dit publiquement. Alexandre, je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs sont alimentées aussi par une presse de caniveaux qui cherche à créer la discorde là où il n'y en a pas, objectivement. Ça fait 5 ans qu'on m'explique. Ça fait 5 ans qu'on m'explique que ça va mal se passer entre Éric Zemmour et Sarah Knafo. Le fait est que ça se passe très bien, vous voyez.
Et bien, Stanislas, il nous reste 10 minutes encore.
Bah, parce qu'on a loupé plein de candidats.
Non, mais pas tellement.
Bah, on a loupé Elisabeth Borne, Jean Castex.
Oui, mais est-ce que ce sont vraiment... peut-être qu'on peut chacun faire un résumé un petit peu en termes de pronostics, en termes de grandes tendances sur les grands sujets.
J'aime pas les pronostics aux élections.
Bah, écoutez, Stanislas, prolongation, ça n'arrive pas si souvent quand vous animez. Dans le fond, peut-être qu'on peut en profiter pour justement.
Vous faites bien de rappeler que c'est Stanislas qui anime cette émission. Cher Alexandre. Parce que je pense que ça avait
c'est échappé. C'est mon côté journaliste.
Vous ne voudriez pas reprendre le créneau?
Eh bien écoutez, pourquoi pas?
C'est vrai?
Je peux y réfléchir, mais pourquoi vous en voulez plus?
Alors pas du tout. Simplement, il se trouve que j'ai des semaines qui aujourd'hui sont calibrées de façon différente.
Mais est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un petit peu à quoi sont occupées vos semaines, Sénégas? D'ailleurs, je pense aussi à autre chose, c'est qu'avant, on avait, pardon, mais quand vous animiez, fut un temps, on avait à chacun une minute littérature à la fin, on pouvait parler des livres qu'on avait lus, etc.
Mais on peut le faire,
vous parlez de chaque fois. Vous parlez du dernier livre de Patrick Buisson, d'une certaine façon, est-ce qu'on pourrait pas rétablir cette tradition?
Cette tradition n'a jamais été abandonnée, c'est vous qui avez abandonné prolongation, cher Alexandre.
Oui, c'est pas faux non plus, je vais répondre à ces trois points, Alexandre. Le premier, à quoi j'occupais cette semaine, écoutez, à la gestion de mon entreprise et qui me prend
Nexus,
du temps, exactement, qui est une entreprise d'affaires publiques, de relations presse et de communication de crise, que j'ai cofondée avec 3 autres personnes, donc qui me prend un peu de temps. Et puis voilà. Et puis la deuxième chose, pardon de le rappeler, mais beaucoup de gens dans mes amis, dans ceux qui se prétendent être mes amis, m'ont fait faux bond. Ce n'est pas votre cas, cher Alexandre et cher Pierre. simplement, et je pense notamment à Étienne d'Arjac ou Emmanuel de Beaumune,
bien sûr,
qui sont plutôt
indignes.
Le mot est peut-être un peu faible, oui, mais en tout cas, quelle indignité, pour reprendre l'expression bien venue. Et puis le troisième élément, Alexandre, on peut dans les prochaines minutes parler de littérature. Après, l'idée, c'était pas, et je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, et je vous l'ai déjà dit hors antenne, parler de Musso et de Marc Lévy à chaque fois.
C'est mes petites faiblesses, je suis un peu...
Même si c'est des très bons livres de train. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai débat. Pardon, mais on a une espèce de mépris pour ces gens-là. On dit, ah, gna, c'est de la petite littérature. Mais un peu comme ceux qui disent, moi, j'aime bien Agatha Christie. Je ne vous compare pas à Agatha Christie et Guillaume Musso. Simplement, en fait, à la fin, toutes les personnes qui critiquent Guillaume Musso ne l'ont jamais lu. Et s'il a tant de succès et que c'est facile à lire, c'est aussi c'est parfois très bien écrit, non?
Non.
Ok. C'est un argument qui ma foi, assez léger, mais qui...
Et vous parlez d'Étienne d'Arjac il y a un instant. Mmh. Vous savez quoi? Eh ben avec Étienne d'Arjac, on s'est mis tous les deux à relire Le Seigneur des Anneaux en même temps.
Aïe, 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 je déteste ça.
C'est vrai? Vous n'avez
non,
pas le Seigneur des Anneaux?
Non, ce côté un peu geekos. Les elfes, les gobelins. Ah oui, les Tolkien, il était plus profond que ça, en fait. Attendez, il décrit l'Occident.
Non, mais en fait, il a juste inventé X langues sur Terre.
Oui, bah enfin, moi aussi, je peux commencer à faire gaga, gaga, ça veut dire bonjour. Enfin, ouais, ça c'est...
Mais elle est plus grand pour voir.
Bah, gaga, oga, ce qui veut dire merci de finir votre phrase.
Vous avez plus?
Ah, je peux tenir, mais ça va être un peu compliqué pour nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement bilingues.
Oui, voilà, exactement.
En
rigotisme, absolument. Non, mais
c'est un génie, bien sûr.
On s'est remis plus sérieusement à cet ouvrage, que Cerzano, donc c'est quand même un ouvrage assez conséquent,
ouais,
mais absolument merveilleux. Et effectivement, alors, Étienne d'Arjac m'a dépassé dans cette lecture où il l'a terminé, je crois, hier soir, ouais, pour ne rien vous cacher. Tandis que moi, je n'ai atteint que la mort de Théoden lors du retour du roi.
Vous dévoilez l'intrigue.
De Minas Tirith, hier soir, mais cela étant, je ne désespère
vous
pas.
Vous êtes déjà à la bataille de Minas Tirith?
Bah oui, écoutez, après quelques.
Oui, en reprenant tous les tomes dans l'ordre?
Oui, bah, je ne vais pas le prendre dans le désordre non plus.
Ça fait combien de temps?
Ça fait moins d'un mois.
Ah oui, tiens, ok, oui, pardon.
Oui, non, mais
je
voilà.
Ça faisait trois jours et je me suis dit, soit vous reprenez les BD.
On s'est remis en même temps suite à une phase dépressive qu'on partageait tous deux.
Oh non, pas de ça,
Et ensuite, autre point, sachez, chers auditeurs, que je suis en train de lire Le Génie du Christianisme, que je n'avais jamais lu, de Chateaubriand, et que Le Génie du Christianisme, c'est absolument génial.
Pierre?
Eh bien, moi, je vais être très décevant pour le coup ce coup-ci.
Bah, ça ne nous surprendra pas, Pierre.
Merci, cher Alexandre. Dans le sens où mes journées sont également très chargées ces derniers temps, et donc je n'ai pas pris le temps d'ouvrir un livre depuis bien trop longtemps, puisque je...
Votre honnêteté vous honore, mais parce que vous êtes partie de la génération Z, qui passait beaucoup de temps sur Instagram et TikTok.
Alors, je n'ai pas TikTok et je ne passe pas tant de temps que ça sur Instagram.
Montrez votre temps d'écran, Pierre.
Le temps d'écran, c'est autre chose, mais pas nécessairement sur Instagram, malheureusement. Enfin, malheureusement,
non. Rappelons à nos auditeurs que Pierre est tout jeune, vous avez tout juste 18 ans.
Oui, c'est ça, 17 même. Non, c'est... Enfin, vous avez 15 ans et 3 mois, c'est ça qui est le plus important. C'est
vous l'aurez compris, c'est évidemment faux, chers auditeurs. Quel
âge c'est? Vous avez 21 ans maintenant?
22 ans même.
22 ans. Et,
oui. Vous êtes si méprisant, c'est une
chose. Et pas du tout.
Regardez-vous.
Je déjeunais.
Mais c'est simplement que le talent n'attend pas le nombre des années, comme on dit.
Exactement. La valeur n'attend pas
la valeur, mais le talent également.
Et c'est dans quel livre ça?
Ouais. Celle-là, j'avoue que je vais être très franc, je ne l'ai pas.
Eh ben, c'est Le Cid de Corneille.
Ah bien, oh là, oui, eh ben, bien oui, sûr. Oui. Bien. Oh là.
Et c'est ce qui est assez génial, plus, c'est que c'est un livre qui a donné des expressions particulièrement connues ou qui sont rentrées tout
oui,
à fait
j'en
dans le
langage oublié courant. Que, voilà, c'est tellement courant que j'en avais oublié que ça venait du Cid.
Mais c'est normal, et on ne vous en veut pas pour ça. Vous, Stanislas?
Écoutez...
C'est un super film.
Il y avait un dessin animé plus jeune, Rory, le petit
Booba, le petit ourson.
Une minute, heureusement, pour cette émission laborieuse autour de vous, Galzin. Non, écoutez-moi, je lis Olivier Dard en ce moment sur Charles Maurras, où je me replonge vraiment. Mais depuis, ça fait quelques temps, là, que je ne fais que du Maurras quasiment, et en même temps, j'ai du Zweig qui m'attend, qui est empilé sur mon bureau et sur ma petite table de nuit de fortune chez moi. Donc là, je vous avoue, j'ai une très très grande phase de maurrasisme. Évidemment un mot, mais évidemment qui me prend du temps. Et Maura, c'est a beaucoup de talent, mais parfois un peu loin de lui. Et surtout, j'essaie de lire de façon un peu étudiée, Donc ça, à savoir, pour être plus clair, stylo à la main. Ce qui me prend un peu de temps, mais j'aime beaucoup et c'est surtout passionnant.
Non, moi, je ne lis pas, mais par contre, niveau culture, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé à des concerts.
Mais c'est génial, mais il reste 10
minutes. Concerts d'orchestre symphonique, voilà.
C'est, bah, écoutez,
c'est magnifique.
On aura, non pas de la symphonie, mais on aura des chants grégoriens dans quelques instants. Cher ami auditeur, merci d'avoir suivi cette émission de Radio Courtoisie. Je remercie mes deux chroniqueurs et amis, Alexandre et Pierre. Et je vous dis à dans 2 semaines sur Radio Courtoisie. Merci à la régie de nous supporter. C'est ce qui est, je crois, la plus belle des prouesses et la preuve de sainteté sur cette terre. Très bon week-end à toutes et à tous.
Vous venez d'entendre Prolongation, dirigée par Stanislas Rigaud, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 24 avril 2026, de 21h30 à 23h, et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016, Paris.